Bonjour à tous, nous voici donc à notre troisième cours sur écologie-économie. Après les deux premiers cours qui ont porté plutôt sur économie et justice, économie et doctrine sociale de l'Église, nous allons, pendant deux autres cours, les derniers de votre parcours pour ceux qui sont inscrits au CIF, nous allons davantage vers les questions d'écologie au sens habituel du mot. Je vais le faire en deux séances. Une première aujourd'hui sera consacrée sur le texte du pape François, donné il y a 5 ans, comme vous le savez, Laudato si. Et la seconde soirée fera un peu plus usage des pensées anciennes dans la tradition de l'Église sur les rapports de l'homme à la nature, car ce n'est pas une lubie récente de la part du pape ou de la part de l'Église, que de parler d'écologie. Si vous voulez, c'est pas une mode, et l'Église n'est pas à la suite du monde comme certains crétins le disent. Je vous invite avec ce signal à passer à la photo suivante, qui vous présente le plan. Tout d'abord donc, je vais présenter cette encyclique parue en mai 2015, sans en faire trop un commentaire serré, un commentaire suivi, ce serait fastidieux, beaucoup trop long. Je me contenterai d'en relever les originalités et les points saillants. Pour le second chapitre, nous suivrons le pape François quand il débat sur les accusations portées contre le christianisme à propos de Genèse 1. Vous verrez, c'est quelque chose d'assez important, et sur ce point, je développerai quelques aspects de pensée, disons, philosophique, si on peut dire. Puis nous irons emprunter deux courtes leçons à Heidegger dans le troisième point. Rassurez-vous, ce plan va réapparaître très régulièrement, au fur et à mesure que je changerai de chapitre. Tout d'abord, donc, le statut du texte, Laudato si, ben, il y a de vraies originalités. Il y en a beaucoup. Je ne vous indique que deux de ces originalités. Ceux qui lisent un peu ce texte, les textes habituels du magistère, ont tout de suite été surpris par ces procédés inhabituels. Si vous avez lu, ne serait-ce que dans le métro ou dans le bus, parce que c'est un texte qui se lit assez facilement, vous avez bien vu que ce n'est pas du Benoît XVI, encore moins un genre littéraire du genre Concile Vatican II. Le style est bien plus délié, sous le mode presque de la conversation et apparemment pas sur un ton doctrinal, en tout cas certainement pas doctrinaire. Je pense que ce ton nouveau fait partie de la conversion écologique nécessaire, en particulier dans le monde ecclésiastique. Vous voyez, là j'ouvre d'emblée le mot écologie à infiniment plus large. Pour autant, le pape revendique l'appartenance désormais de ce texte à la doctrine sociale de l'Église. C'est la raison pour laquelle je vous mets, vous voyez, cette photo très solennelle, avec grande foule, trône, cardinaux à gauche et à droite du pape. En effet, le titre même d'encyclique donne un statut. Et donc le ton, le style, n'en font pas, pour autant, une aimable conversation d'où chacun pourrait tirer son opinion. Même si sur le plan théologique, elle est probablement moins puissante, moins enracinée que les précédentes, en tout cas, le fait même du statut d'encyclique, et non par exemple d'une lettre apostolique ou d'une audience, l'inscrit dans les éléments les plus importants, les plus fondateurs du magistère romain. Il faut en tenir compte, hein. Ce n'est pas une homélie, vous savez, de François pendant la messe du matin, comme il en prononce chaque jour sur un ton un peu libre. Là, vous pouvez en effet prendre votre distance avec ce qu'il dit. Pour être clair, l'autorité de ce texte est juste en dessous de celui d'un concile. Donc voilà, ouais, c'est un premier point assez important. Second point, contrairement à l'usage, le pape ne cite que très peu la tradition du magistère, c'est-à-dire il ne cite pas le concile de Trente, le concile de Constantinople II, le concile d'Éphèse, et il ne fait pas ce genre de choses. Par contre, il cite ses deux prédécesseurs, car ceux-ci avaient, c'est d'ailleurs passé complètement inaperçu, tout le monde pensait que ce n'était pas un sujet, mais juste une petite sucrerie journalistique, ses deux prédécesseurs donc avaient amorcé le sujet de l'écologie, ou en tout cas d'un rapport éthique à l'environnement. À noter ici, et c'est pour ça que je l'ai rajouté, que le patriarche Bartholoméos, donc le patriarche de Constantinople, lui avait déjà largement engagé ce sujet dans le corps de doctrine de l'Église orthodoxe. Aussi, ne voit-on pas dans l'encyclique de citations abondantes des grandes traditions de l'Église, comme c'est la coutume? Pour deux raisons. D'abord, l'Église, dans son magistère, ne sait que rarement, pour ne dire jamais, interroger sur le statut de la nature. Non pas que ça ne l'intéressait pas, mais que ça ne faisait pas vraiment question. Et il y a une pensée théologique, bien sûr, sur le cosmos, sur la création, nous le verrons la prochaine fois. Mais jamais l'alarme concernant l'environnement n'avait imposé une prise de position de l'Église. Or, depuis 30 ans, la question s'impose aux esprits, non pas à l'Église, mais à tous. Et le fait que ce texte ait été publié quelques mois avant la COP 21 de Paris a en quelque sorte placé le curseur à une très haute hauteur, si j'ose dire. Le magistère, en la personne du pape, a pris de l'avance. Ce qui est tout à fait remarquable, et d'ailleurs qui a laissé assez bouche bée les grands de ce monde et le journalisme mondain. La seconde raison de l'absence de citation de la tradition, c'est que la grande réserve de réflexion où le pape François va puiser, ce sont les conférences épiscopales des différents pays. Là aussi, ça fait partie de la conversion écologique, le local, là. Il y a là, évidemment, de plus, un projet ecclésial, si vous voulez, il y a une mise en place d'une théologie de l'Église, beaucoup moins hiérarchisée. Et en effet, la raison concernant la Terre provient des situations existentielles locales, et non pas d'une pensée théorique de surplomb. Et tout le monde n'est pas dans le jacobisme à la française, où tout vient de Paris. Eh bien, il faudrait que l'Église pense et se convertisse vraiment en disant non, tout ne vient pas de Rome. Et donc il y a une place pour les conférences épiscopales. Ça, vous voyez, c'est un des enseignements second, c'est-à-dire c'est pas la cible première, mais c'est un enseignement quand même de cette encyclique. C'est une constance hein, chez François, le rapport du local au global, du quotidien aux grandes idées. Vous voyez, c'est une forme de retour au petit, ou si vous voulez, un retour au réel, ou un retour à l'existence. Pourtant, il faut bien à ces préoccupations de terrain une pensée en recul, une pensée en hauteur. Ce qu'ont fait à leur niveau les évêques d'Amérique du Sud, du Japon, très peu en Europe, Portugal, Allemagne quand même, et la conférence française a rattrapé récemment son retard, très récemment, c'était en novembre 2019, un rassemblement de la conférence épiscopale française très étonnant, puisque à Lourdes, ils ont fait venir en grand nombre des laïcs pour participer précisément à cette question de la conversion écologique, ce qui est assez remarquable. Donc là, disons, on a rattrapé notre retard. Le pape donc valide en quelque sorte ses intuitions théologico-écologiques en les inscrivant dans la tradition de l'Église. Il valide aussi le fait que la gouvernance de l'Église, guillemets, devrait bien se faire à partir des conférences épiscopales, ou du moins qu'un équilibre meilleur est à chercher puis à imposer. Passons, voici le plan à nouveau, hein, passons au deuxième point, après avoir vu le statut de ce texte, hein, ce dont je viens de parler. Je vais vous donner maintenant quatre points de repère. Tout d'abord, l'expression « maison commune » qui fait le sous-titre de l'encyclique. Les stoïciens, déjà, pensaient l'homme comme citoyen du monde, et c'est pas une nouveauté. Mais c'était alors une position philosophique idéalisant un ordre, un cosmos. Le mot cosmos veut dire ordre. Et donc c'était une posture philosophique qui pensait un cosmos dans nos situations locales, dont nos situations locales ne pouvaient guère avoir idée. C'est-à-dire que l'ordre était dans le tout. Ouais, c'est ça l'idée de la maison commune. Et l'ordre n'est pas forcément dans le particulier que vous subissez, que vous vivez, et qui vous impressionne, et qui éventuellement vous donne le sentiment d'une injustice, voire d'une révolte. Le stoïcien dira « mais ne te révolte pas, tu fais partie d'un tout, et c'est le tout qui est ordonné. Et si toi tu souffres, mais c'est bien pour la totalité. » Et c'est ça la maison commune chez les stoïciens. De nos jours, il y a de même un sentiment partagé par beaucoup, une sorte de désenchantement du politique, hein, c'est donc une sorte d'universalisation, mais au sens presque, en effet, désenchanté du terme. Nous sommes embarqués, tous, dans des forces qui dépassent, qu'est-ce que vous voulez, la puissance de nos États. Et donc, il y aurait une sorte d'impuissance, puis bientôt d'indifférence politique, parce que, eh bien, il y a un Big Brother qui fait tout, ou bien une finance internationale qui manipule tout, etc. Vous voyez que ça, ce sont des idées de la maison commune contre lesquelles François, évidemment, va s'opposer. En tout cas, s'il ne s'y oppose pas, il propose autre chose. La mondialisation, en effet, dont je viens de parler, hein, pour une part, et la crise du Covid nous l'a probablement révélé, la mondialisation déstructure nos perspectives et nos projets et nos économies à échelle humaine, entre guillemets. Ce qui, chez les stoïciens, engendrait une espérance, hein, du genre « soyez en paix, il y a une raison plus haute que votre seule cité, et cette raison plus haute ordonne toute chose, donc soyez en paix, vous souffrez, mais l'ordre règne. » Eh bien, cette pensée devient finalement une désespérance, nous n'y pouvons plus rien. Le pape se passe entre ces deux positions, si vous voulez, la position de cette mondialisation toute puissante et celle des stoïciens, en parlant de maison commune ou encore notre maison. Cette expression a l'avantage de dire que nous habitons tous le même endroit qu'en effet la mondialisation récente a considérablement réduit. Et ça, c'est un troisième aspect tout à fait réel. En effet, tout est aujourd'hui très réduit. Le monde est un village, dit-on. C'est-à-dire, ça nous donne aussi l'idée maison commune. Ça nous donne aussi l'idée d'une famille humaine. Et donc, comme dans une maison, chacun doit vivre en ayant le souci des autres. Ils cohabitent, nous cohabitons. Et là encore, d'où cette photo, et l'expérience récente du Covid-19 a, avec évidence, imposé les contre-coups négatifs, certes, mais nous sommes bel et bien embarqués dans la même maison. Nous habitons la même demeure. Et le bruit que le gosse fait dans sa chambre au-dessus gêne les parents qui essayent de lire en dessous. Ben voilà, aujourd'hui, le monde s'est réduit à très peu de choses, on le voit avec la rapidité de la propagation de ce virus. Trois choses que je révèle encore, toujours sur ce premier thème, hein, la maison commune. Habitant la même demeure, quelque chose de la fraternité doit nous porter à la miséricorde envers tout homme et envers la terre. Je comprends miséricorde comme accord des cœurs, s'accorder, un accord des hommes pour avoir pitié de la terre. Et ça, c'est quelque chose qui est fort important dans cette encyclique et même dans d'autres textes que François a édités depuis. Deuxième point, ce n'est donc pas d'abord une contrainte venue d'en haut qui doit nous obliger, mais le frère dont nous sommes les obligés. C'est-à-dire que même si le désastre écologique, économique, économico-écologique, ou le désastre belliciste n'était pas, il nous faudrait quand même prendre soin de la terre par estime d'autrui. Et troisième aspect, il y a en effet une universelle motion, un désir, si vous voulez, un soulèvement des esprits et des aspirations des hommes au bénéfice de la nature pour la protéger. Vous voyez, ça monte de plus en plus, ce souci des choses, ce souci de la terre, ce souci de notre maison. Les questions touchant à l'équilibre écologique sont le terrain par excellence de cette communauté de destin et d'aspiration. De destin, ça va sans dire, car si nous ne faisons rien, nous allons tous crever, mais aussi d'aspiration. Et il n'y a pas que les idéologies crypto-trotskistes des écologistes des années 70. Il y a véritablement aujourd'hui une sorte de soulèvement des consciences à l'égard, pour prendre égard, de la Terre. Ça, c'était le premier aspect sur la maison. Second aspect, qui revient maintes fois dans le texte, ça tout le monde l'a repéré, tout le monde l'a redit. Bruno Girard vous en a déjà parlé avec les questions d'économie. C'est l'expression « tout est lié ». De quoi s'agit-il ? Non pas de la solidarité mécanique des phénomènes dorénavant mondiaux, pandémie, mais aussi circulation des marchandises, uniformisation des cultures, non pas tellement des économies mondiales que l'expression « maison commune » laissait entendre, puisque « économie » vient du grec « oikos »,« maison »,« nomos », »,« la règle ». Dans ce cas, « tout est lié » voudrait dire que toutes les économies sont mondialisées et semblent gouvernées par les flux financiers, plus ou moins maîtrisables. Ce à quoi d'ailleurs le pape fait allusion, hein, ici ou là, mais sans trop y insister, ce qui est curieux d'ailleurs. Parce que ça pourrait faire l'objet, d'ailleurs il y a eu des textes du magistère sur cette question précise. C'est dans la bibliographie de Bruno Girard. Non, quand il dit « tout est lié », il veut dire, et il répète plusieurs fois, que l'écologie est liée à l'idée qu'on se fait de l'homme. Et vous verrez, je le développerai, mais c'est même lié à une idée qu'on se fait des rapports de l'homme à son monde. C'est donc, l'écologie est liée à une anthropologie, donc, qui est liée elle-même à des idéologies autant qu'à des recherches de profit, qui sont liées à une confiance abusive et abusée dans les technologies, etc. Et les choses sont liées. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Hein. Donc, la foi que nous mettons dans les technologies, avec cette espèce de pseudo dogmatisme des sciences exactes, en fait, est liée à une confiance abusée envers notre toute-puissance, laquelle est confirmée par une sorte de gangrène du profit, laquelle est nourrie d'idéologies, par exemple, du libéralisme extrême, etc. Tout est lié. Et tout ça, c'est lié, évidemment, à une anthropologie. Les choses, les idées, les fléaux fonctionnent en grappe et sont donc des conséquences les unes des autres. Alors ça, c'est une idée très affirmée dans cette encyclique, qu'on résume souvent en disant « tout est lié ». Mais vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Il y a une espèce d'épaisseur quand même conceptuelle dans ce quasi-slogan. Le pape insiste particulièrement sur une chose que nous n'aimons pas entendre, nous autres en Occident, c'est le lien entre pauvreté et la mise à sac du monde, le saccage écologique. Vous voyez, nous sommes les uns de notre monde. Nous sommes Attila, pour la terre. Et qui morfle, c'est pas nous, hein, pas pour l'instant, c'est les plus pauvres. Alors ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'en Occident, on efface très vite. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'Église catholique française a peu reçu ce texte. Bah parce que, qu'est-ce que vous voulez, on fait pas partie des pauvres. Voilà, donc on essaye de pas trop y penser, quoi. Et puis on fait peut-être partie de ceux qui mettent à sac ce monde. Et le pape y insiste beaucoup, évidemment, vous savez, il vient d'Amérique du Sud, où lui, il sait ce que c'est que de vivre dans les poubelles. Et donc, c'est l'individualisme et son fantasme de toute puissance qui alimente la crise environnementale autant qu'il alimente la crise financière. Vous voyez, les deux sont liés également. Autant qu'il alimente une contestation des idées anthropologiques fondamentales. Et là aussi, vous voyez, tout est lié. C'est-à-dire, il y a une espèce d'augmentation gangrénée, d'un cancer de l'idée de liberté. Je fais de ma vie ce que je veux, je fais de mon identité sexuée ce que je veux, je fais du monde ce que je veux, je fais de ma carrière ce que je veux, je fais de mon corps ce que je veux, je fais de mon argent ce que je veux. Tout ça est lié. Et tout ça est lié à un fantasme de toute puissance fondé sur un individualisme qui met à sac les choses, les gens, la terre. Il y a une même logique, une même éthique qui relie le respect de son propre corps, le respect d'autrui, le respect de la différence, le vrai coût des choses, la protection de la nature, la justice sociale, etc. Vous voyez que ce n'est pas un petit jeu de mots de dire que tout est lié. Il y a un troisième thème, largement répété, celui de l'écologie humaine, ou plus exactement, le pape dit écologie intégrale. Benoît XVI parlait plus d'écologie humaine, François plus d'écologie intégrale. C'est pratiquement l'inverse de la toute-puissance. C'est-à-dire, c'est l'inversion de l'autonomie quand elle devient invasive. C'est l'inversion de la liberté quand elle devient cancérigène. C'est l'inversion de l'égocentrisme devenu fou. Principalement, il s'agit, principalement et premièrement, il s'agit d'accepter nos limites. Le monde est limité. Nous avons réduit le monde à son potentiel de matière exploitable, ce qu'il n'est pas. Mais même ça, nous le constatons, a des limites. L'homme, enfin, et ce serait une sagesse première que de le vivre, l'homme lui-même a des limites. Ici, vous voyez, je vous mets sur cette photo deux livres, l'un qui s'appelle « Nos limites » et un autre qui s'appelle « Écologie intégrale », je le remettrai sur la bibliographie. Est-ce que ce sont des évidences, ce que je viens de dire? Eh bien, précisément, non. Il ne semble pas. Pour nous, peut-être, dans nos milieux, peut-être que ce sont des évidences. Mais en fait, non. C'est la raison pour laquelle ce texte peut faire une référence, peut nous donner autorité pour penser la conversion. Il nous faut, à l'inverse, et nous qui savons, et tout le monde le sait, mais tout le monde veut s'abrutir de consommation pour oublier qu'il sait que nous sommes limités. Eh bien, nous, il nous faut, à l'inverse, développer une éthique de la vulnérabilité. C'est parce que nous ne pouvons pas tout que nous sommes humanisés. C'est parce que nous devons à autrui que nous grandissons. Jamais le contraire. Nous apprenons sans cesse d'autrui. Nous nous connaissons nous-mêmes par le biais des autres. Nous sommes en dette. Nous sommes en dette d'être. Cette vulnérabilité qui est nôtre n'est pas du tout dégradante. Ce qui est dégradant, c'est notre toute-puissance. La toute-puissance, c'est contre nature. C'est contre la nature humaine et contre la nature tout court. Tout est lié. C'est précisément le combat de cette écologie intégrale que de le rappeler. Et donc je cite ici le petit ouvrage Nos limites, paru en 2014 sous la direction de Besdeberck. Je cite un extrait. L'écologie intégrale ne choisit ni l'humain contre la nature, ni la nature contre l'humain. C'est une allusion à la radicale écologie américaine. Elle cherche au contraire à réconcilier l'humanisme et le respect de l'environnement, à faire la synthèse entre respect absolu de la dignité humaine et préservation de la biodiversité. Promouvoir l'écologie intégrale, c'est reconnaître qu'on ne saurait défendre l'une sans protéger l'autre, se soucier des plus fragiles sans s'opposer à tout ce que nos modes de vie peuvent avoir de dégradant et de destructeur. Car la détérioration de notre environnement ne peut qu'entraîner notre déshumanisation. Fin de citation. C'est tout à fait dans le ton de Laudato Si. Et donc, s'il fallait reprendre notre image d'un monde de bulles agglutinées en grappes, on aurait côté vertueux quelque chose comme ça. Quatrième point. Il y a dans cette encyclique quantité de propositions de changements concrets de nos modes d'existence. Ce n'est d'ailleurs pas une nouveauté chez ce pape François. Et c'est très symptomatique de voir à quel point ça agace, principalement dans le clergé, disons, conservateur. C'est très intéressant de mettre l'accent sur les petits côtés de l'existence. Non pas seulement parce que trier nos poubelles va faire descendre le niveau des océans ou rendre respirable l'air des cités chinoises. La question n'est pas d'abord là. Ce n'est pas une question sur l'efficacité. C'est très intéressant parce que c'est là que se situe l'authentique vie spirituelle des chrétiens. S'il y a un domaine où les chrétiens sont spécialistes, c'est dans la pratique de la quotidienneté. C'est ça l'authentique vie spirituelle. C'est dans le geste quotidien, dans l'attention, dans la banalité du quotidien, dans la charité banale. Voilà l'authentique vie spirituelle. Et on n'est pas un grand saint parce qu'on va vivre martyr à l'autre bout du monde. On est un grand saint parce que chaque jour, on essaye de bonifier le monde. Ceci est en effet très dans la tradition chrétienne. Le geste, c'est la deuxième raison de ces petites réformes de la quotidienneté. Le geste éduque. La main donne à penser. C'est le pain qu'est pour nous la présence de Dieu, se donne quotidiennement. Voilà, voilà, ça c'est quelque chose qui est très chrétien. Vous voyez, c'est-à-dire ce que vous faites, vous fait. Le quotidien fait ce que vous êtes. Non, ce ne sont pas vos diplômes qui vous ont fait. Non, ce ne sont pas les grandes réussites de votre existence. Ce qui vous fait, c'est votre quotidienneté. C'est le jour à jour. C'est pourquoi on peut parler d'exercice spirituel dans cette encyclique à propos de ces gestes de l'écologie habituelle. Mais je relève trois aspects plus éthiques de cette conversion de nos gestes quotidiens. La première raison de ces pratiques élémentaires, c'est qu'il faut arrêter de déléguer les responsabilités. Alors évidemment, ça va contre l'esprit français, ça, qui voudrait que l'État fasse tout. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter de déléguer les responsabilités, même si nos gestes sont dérisoires. Ils vont finir par former une sorte de culture du refus de gâcher. Ils vont finir par former une sorte de culture du respect des choses, du rejet de la mentalité « tout m'est dû ». C'est, si vous voulez, la fin des vautrés, la fin des gavés. Vous savez, c'est le prophète Osée qui dit ça. Hein. C'est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Alors, on ne le met jamais dans la liturgie, vous pensez bien. Hein. Tu peux contester et t'indigner de la façon dont le monde est gouverné, à condition que tu commences ici et maintenant. Sinon, tais-toi. Ne fonde pas les changements sur tes indignations et tes dénonciations. mais fonde-la sur tes pratiques. Ça, vous voyez, c'est très François. Donc voilà la première raison du geste quotidien. La seconde raison est que ces gestes composent une véritable colonne vertébrale de notre être au monde et de notre vie spirituelle, j'en ai parlé. Il s'agit d'opérer un retournement de la vigilance. Alors voilà un nouveau mot que j'introduis, de la veille, si vous voulez, de la garde, nous en reparlerons. Hein. C'est-à-dire, non plus sur nous-mêmes, mais sur l'alentour. Une sorte de retournement du care. Non pas le souci de soi, mais soigner, guérir et convertir notre façon d'être au monde, d'être avec. Il y a une sorte, une véritable obsession de soi-même qui est nocive pour nous-mêmes et prédatrice pour nos compagnons, nos coturnes, devrais-je dire, puisque nous sommes dans la maison commune. Troisième raison de ces gestes quotidiens, c'est le quotidien, quand il est habité d'attention et de retenue, l'art de réhonorer le quotidien, la petite chose. La troisième raison, c'est faire attention, prêter attention à ce que l'on consomme, à ce que l'on mange, à ce que l'on achète, à tout ce que à tout ce pourquoi nous consacrons de l'argent et du temps. Prêter attention aux gestes d'amitié, de courtoisie, même si vous passez pour une pomme, c'est infiniment plus rempli que l'ordinaire de la brute affairée ou du gros beauf qui consomme. Donc vous voyez, c'est une sorte là, de retournement, de conversion de l'attention. Mais disons, là où nous n'étions pas attentifs parce que nous le vivions machinalement, devenons attentifs. L'art de consommer, l'art d'acheter, l'art de manger. Puis bientôt, l'art de respirer, l'art de sentir les odeurs, l'art de marcher dans la rue, l'art d'apprécier chaque journée, l'art d'apprécier une pluie, etc. Et c'est une véritable conversion, là aussi, de la quotidienneté. Même si ce n'est pas utile, tous ces gestes, au vu des dégâts planétaires, c'est en tout cas un art de vivre incontestablement plus intéressant que l'inattention, l'insouciance et le consumérisme. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la culture de l'anti-bidochon, ou si vous voulez... d'autres l'ont dit, hein, une sorte de frugalité heureuse. Passons au point suivant. Il demeure quelques questions. Bon, deux questions. Je vais leur faire un peu de place quand même, parce que je voudrais faire droit aux questions et objections faites à l'encontre de ce texte par certains. Mais comme vous le voyez bien, après ces quelques mots d'introduction, il faut lire ce texte Laudato Si avec attention et avec une attention bienveillante, puisque c'est un texte dorénavant du magistère. Cependant, le pape lui-même a voulu en faire un texte discutable, il le dit. Hein. Ce texte est discutable, c'est-à-dire c'est pas, vous voyez, on a l'impression qu'il brise une dimension dogmatique des textes magistériels. Il dit, mais on va en débattre. C'est-à-dire, donc, ouvert à la discussion. Mais, ouvert à la discussion, certes, mais un texte qui fait autorité, quand même. Il sait très bien, en fait, qu'il s'est aventuré ici ou là, on le voit très nettement hein, quand on lit le texte, il s'aventure ici ou là sur des terrains où les points de vue peuvent très largement se différencier. Donc, j'en relève deux. Tout d'abord, beaucoup l'ont dit, le pape fait confiance sans les habituelles circonvolutions prudentes dans les chiffres et les conclusions du GIEC, groupe international d'experts sur l'évolution du climat. Globalement, leurs conclusions abondent vers une situation alarmiste. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ce gag, vous voyez, il vaut mieux sourire de toute chose. Comme vous le savez peut-être, Claude Allègre, en France, est un des représentants les plus connus, enfin, il était très connu. Il y a en effet des climato-sceptiques, comme on les appelle, c'est-à-dire le lien entre les activités humaines et la modification du climat est encore, disent-ils, scientifiquement une recherche ouverte. Bon, voilà, je vous le signale. Mais le pape est convaincu par ses positions du GIEC et autres. Il n'y a pas que le GIEC. Or, pour respecter la nature, nous n'avons pas forcément besoin d'un scénario catastrophe. C'est-à-dire, même si M. Allègre avait raison, pour autant, il faudrait convertir notre rapport au monde. En effet, quoi qu'il en soit, même si toutes ces prévisions sont alarmistes à l'excès et qu'on s'en sortira bien, entre guillemets, comme disent les climato-sceptiques, quoi qu'il en soit, le type de comportement et de réforme des mentalités que le pape propose vont dans le sens de l'humanisme chrétien. Le second point discutable dans ce texte, c'est la perception assez négative de la technologie qu'a le pape François. Ce n'est pas tant la technique comme telle, ni la science bien sûr, qu'il rappelle être un outil possible pour l'œuvre créatrice de Dieu, mais ce sont les technosciences et, pour dire vite, la technocratie que redoute le pape. Il fait suite ici à toute une tradition de mentalité et de pensée, chrétienne ou pas, par exemple de Heidegger jusqu'à Jacques Ellul. Tradition qui fait foi dans le fait que la technologie comporte en elle-même un phénomène d'emballement, d'enivrement, pourrait-on dire. Vous savez, vous l'avez déjà entendu de la part de Bruno Girard à propos de la finance. Il y a une sorte d'emballement, on devient fou, quoi. D'enivrement de la puissance techniciste, puis bientôt technocrate. Elle n'a pas en elle-même de mode régulateur. Il n'y a pas d'auto-régulateur de puissance. L'aura de la puissance fait qu'on ira toujours plus loin sur le plan des innovations des technosciences. D'où cette image, vous savez, tirée d'un film déjà très ancien, hein, 2001, Odyssée de l'espace de Kubrick. François ne croit pas non plus en l'auto-justification du progrès, ni en celle de la croissance économique. Il ne croit pas que le système financier actuel puisse faire loi comme par nécessité, et, ni qu'il y ait de l'intérieur de quoi ça s'agir, ça je viens d'en parler. Évidemment, sur tous ces points, hein, tout est encore en débat. Et ce n'est plus une question de gauche ou de droite politique, mais pour le pape, c'est une question d'idolâtrie. On a idolâtré les technosciences. C'est une question d'athéisme et d'individualisme. Et il faudrait rajouter de consumérisme et d'intérêt financier. Il n'est pas dit que la science soit conduite pour le bien du monde. Il est certain que la science est conduite pour le profit financier. Et donc, ce qu'il faut sauver, ce n'est pas tel ou tel système, fût-il auréolé des vertus, entre guillemets, des sciences exactes. Ce qu'il faut sauver, c'est l'équilibre entre l'homme et son monde, l'équilibre entre l'homme et le cosmos, que le fléau s'appelle pollution, ou qu'il se nomme asservissement, qu'il se nomme financement, qu'il se nomme tyrannie, qu'il se nomme idolâtrie. Ce qu'il faut remettre en avant, c'est l'équilibre, l'harmonie entre l'homme et son monde. Je dégage de cette première approche, et pour finir, un maître mot que tout le monde a bien repéré et que j'ai signalé au passage, tout est lié. Il y aura trois maîtres mots de ce genre à garder précieusement, vous les connaissez par cœur, mais voilà, je conclurai chacune de mes parties par l'un d'entre eux. Voilà, on fait une petite pause, on se retrouve quand vous voulez.